Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue dans vos Une vie, une œuvre de l'été. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre séquence design avec le portrait d'Ettore Sottsass, 1917-2007. En octobre 1981, un homme de 64 ans du nom d'Ettore Sottsass expose à la Foire internationale de Milan une série de meubles qui vont révolutionner le design mondial pour les années à venir. Avec un groupe de jeunes artistes et un industriel, Ernesto Gismondi, il a fondé un an plus tôt le groupe Memphis et entend s'opposer au rationalisme anglo-saxon pour qui, en matière de design, la fonction prime sur la forme. Retour aujourd'hui sur la trajectoire d'un homme qui a fréquenté les artistes de la Beat Generation dans le même temps qu'il habillait les ordinateurs et les machines à écrire de la marque italienne Olivetti. Ettore Sottsass, par Mathieu Garrigou-Lagrange et Ghislaine David, une émission déjà diffusée une première fois le 5 juin 2008.
Tutta quella presunzione che c'è stata in altre mostre qui alla Biennale a riguardo dell'architettura, quella presunzione di essere in un luogo speciale, cioè come fossero dei giocattoli tutte queste robe qua, si guardano, si capisce, si va, si viene. Trovo molto bello questa nuova, come dire, popolarizzazione del problema. Divulgazione del problema, perché
Ettore, un jour on lui a demandé pourquoi quand il dessinait des bureaux il n'y avait pas plus de nature, il ne faisait pas plus de pot pour mettre des plantes vertes dans les bureaux, parce qu'au fond, dans un bureau, c'était dur d'y travailler, il fallait qu'il y ait un peu de nature qui rentre dedans. Alors il s'est fâché, il a dit, si vous voulez mettre de la nature dans un bureau, alors mettez des femmes nues, mettez des panthères roses, mais pourquoi est-ce qu'on doit y mettre des petits arbres ?
L'architecture di cui si parla molto è l'architettura.
Ils ont fait de moi un artiste parce qu'ainsi on peut me payer. Certains pour se moquer ou peut-être parce qu'ils croient, mais donnent même du maître. D'autres regardent mes cheveux longs et me disent comme on vous envie. Vous, vous pouvez vous le permettre, vous êtes un artiste. Et tous désormais attendent de moi des explications, des solutions, des sauts de linge. Tous veulent entendre tenter les clochettes de mon chapeau, tandis qu'ils restent là, immobiles à me regarder, coiffés par les coiffeurs, habillés par les couturiers, éduqués par l'école, enrichis par la production et devenus respectables par le travail. Assis sur des trônes conquis, grands et petits, ou même sur des chaises de cuisine, car on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas des artistes. On leur a dit qu'ils ne pouvaient se permettre d'avoir les cheveux longs ou de construire eux-mêmes leurs meubles.
Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Sottsass, je lui dirais de regarder la Valentine, je lui dirais de regarder quelques meubles faits dans les années 60, qu'on voit sur eBay et sur les sites Ettore Sottsass sur Internet. Je lui dirais aussi de regarder deux meubles de Memphis, que je ne veux pas surévaluer, parce que je pense que Memphis est un mouvement dans lequel Sottsass, qu'il a fondé en 80-83, mais il en est très vite sorti, et ce n'est pas le vrai Sottsass. Et puis je lui dirais de regarder les verres, je lui dirais de regarder les céramiques des ténèbres, quand il est au fond du désespoir et qu'il fait ses céramiques si impressionnantes. Et je lui dirais de lire Ettore, je lui dirais de lire Le regard nomade.
Et pour parler d'Ettore Sottsass, nous sommes allés voir Marie-Laure Jousset au Centre Pompidou, où elle est responsable du département design. Également David Caméo, le directeur de la manufacture de Sèvres. Nous avons interrogé Michel Champenois, spécialiste de l'architecture et du design au journal Le Monde, et puis des proches de Sottsass, sa femme d'abord, Barbara Radice, et puis Martine Bedin, qui a fait partie dès le départ de l'aventure Memphis, et qui nous décrit ce qui reste peut-être le meuble le plus connu de cette période, la bibliothèque Carlton, dessinée par Sottsass lui-même.
Le Carlton, c'est une sorte, on va le décrire un peu comme c'est une bibliothèque qui a des étagères qui ont toutes la même profondeur, et aucune de ces étagères n'a la même inclinaison ni la même couleur. Et il s'ouvre comme ça sur le mur comme un arbre de Noël. Et quand on va lui dire, mais c'est pas fonctionnel, votre bibliothèque, on peut pas y mettre des livres, il va répondre, on peut pas y mettre des livres comme vous avez envie de les mettre, c'est-à-dire tout droit, avec bien en vue le titre du livre pour être sûr comme ça que vous avez une bibliothèque qui va décorer votre espace mental et que votre espace mental est rassuré parce qu'on voit les titres des livres que certainement vous n'avez pas lu et que vous lirez jamais. Moi, j'adorais les meubles que l'on pouvait bouger, dessiner des lampes à roulettes, comme si on allait les trimballer avec nous dans la rue, comme un petit chien. Je trouvais que le meuble devenait vraiment un compagnon, un interlocuteur. Et là, en l'occurrence, c'est ce grand totem avec les bras ouverts. Il est là et on a l'impression que chaque soir, quand on va rentrer démoralisé après une journée de travail, le meuble est là pour nous accueillir.
Michel Champenois, à la mort de Stotsas en décembre 2007, vous avez consacré évidemment un long article dans Le Monde à ce designer. Il commence ainsi: Stotsas est le vétéran d'une génération qui a fait du design un art populaire et donné aux objets un style et une présence dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un avant et un après Stotsas.
Oui, et je voulais surtout éviter l'expression pape du design qui m'énervait beaucoup et qui était un peu présente un peu partout.
Moi, je pense qu'il est beaucoup plus que le pape du design. Je pense qu'il est un des gourous.
Marie-Laure Jousset.
Je pense qu'il n'est pas le pape parce qu'il n'a pas fait d'église. Il n'a pas de disciples. Il a influencé beaucoup de gens. Mais ce n'était pas du tout un pédagogue organisé. Donc je ne crois pas que l'expression le pape lui convienne. Mais il est un inspirateur. Ouais.
Son parcours, même s'il s'en distingue à bien des égards, est très typique de ce qui s'est passé en Italie dans les années 60 et les années 70, et même un peu avant. Par un hasard de l'existence, une amitié avec Roberto Olivetti, qui par ailleurs l'avait sauvé en le faisant hospitaliser aux États-Unis, en Californie, quand il était très malade au retour d'un voyage en Inde. Enfin bon, donc ça c'est l'origine de cette amitié, de cette liaison. Il a été pendant de nombreuses années responsable du design pour Olivetti. C'est un designer italien au sens où il a, son travail a été connu internationalement et a explosé à un moment où le design italien était déjà extrêmement présent sur la scène internationale, mais où il s'est remis en cause d'une manière éclatante avec ce qu'on a appelé la période Alchimia et la période Memphis, bon, qui mérite d'être analysée dans les détails parce que c'est tout un ensemble de liaisons amicales, de concurrence, de bagarres entre eux, etc., mais qui a fait émerger sous une forme nouvelle et amusante et contestataire le design italien sur la scène internationale.
Et puis l'Italie, Michel Champenois, c'est plus exubérant que la Suisse ou que les pays anglo-saxons. Et en cela, Ettore Sottsass, c'est très italien, dans ce sens qu'il s'oppose un peu à ce design du Nord ou ce design suisse.
Oui, ça c'est ce qui s'est passé dans les années 60. En même temps, il y avait en Italie un design proche du design suisse et du design anglo-saxon. Des formes assez lisses, assez pures, des formes très redessinées, c'est-à-dire pas trop d'angles et des courbes. Je sais pas, le modèle du design anglo-saxon ou anglo-allemand de cette époque, c'est ce qu'on appelle l'école d'Ulm. C'est par exemple les objets que tout le monde connaît des années 60, de la marque Braun, des objets électroménagers ou d'usage privé, des formes très pures qui sont issues en même temps d'un travail sur la chaîne industrielle, c'est-à-dire qu'il s'agit de travailler avec l'industrie, de travailler au sein de la chaîne industrielle et de considérer que plus c'est simple, plus on atteint une certaine beauté formelle à la définition souhaitable du design.
Et puis alors, il faut que ce soit fonctionnel aussi, voilà. Ce qui n'est pas du tout l'idée de Ettore Sottsass.
Je crois que c'est plus largement la préoccupation très très intime et très explicite dans ses écrits, dans ses dessins et dans effectivement ses créations, par exemple ensuite pour la Manufacture de Sèvres en France, c'est l'idée d'une poésie de la forme.
Mon grand-père maternel était sculpteur sur bois. Il confectionnait des figurines, des petits angelots. Il était si fier de son travail que lorsqu'il sortait dans la rue pour aller déjeuner, il prenait toujours soin de répandre des copeaux sur sa veste. Mon père était comme ça, et moi j'héritais de cet amour du détail et du travail bien fait.
Et Ettore Sottsass, né en 1917 à Innsbruck, en Autriche, il va y passer les 12 premières années de sa vie. Quel est le contexte familial dans lequel grandit Sottsass?
Son père avait étudié à Vienne et il était dans la tradition du Jugendstil.
Barbara Radice.
Quand Ettore était 10 ans, il a décidé d'aller vivre à Torino, puisque là était l'école polytechnique la meilleure d'Italie. Il voulait que son enfant étudie là-bas. Et ils sont partis pour Torino.
Et est-ce qu'on retrouve dans l'architecture du fils des éléments de l'architecture du père?
Sûrement de la tradition de Vienne, de la Wiener Werkstätte, de l'école de son père, qui était un architecte très, molto bravo. Il dessinait très très bien son père. Il y a des dessins très beaux de son père.
Il est diplômé juste à la veille de la guerre. Il est prisonnier donc, pendant toute la guerre. Et ensuite, il s'établit à Milan assez tôt. Mais lui aussi, il est un peu dans la dèche. C'est-à-dire que l'après-guerre en Italie, pour un architecte, c'est pas très exaltant. On leur demande, enfin, il fallait reconstruire certainement, évidemment, mais avec des moyens assez limités. Et donc, c'est pas une période exaltante.
Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est en Italie vraiment que le design prend...
Je pense qu'en Italie, il y a une convergence de phénomènes qui sont vraiment propres à l'histoire italienne. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a effacé le mouvement fasciste. Et un certain nombre d'architectes qui ont déserté la scène, qui n'ont pas pu travailler, veulent faire la démonstration que l'Italie est capable de se redresser et de se redresser de façon résolument moderne. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à travailler de façon très active avec énormément d'enthousiasme. Deuxièmement, il y a en Italie cette filière très spécifique à l'Italie qui est que les architectes font du design. Il n'y a pas d'école de design. Autrement dit, la formation est la formation de l'architecture. Ça l'est un petit peu moins depuis 10 ans, mais c'est quand même vrai aujourd'hui. Ça, c'est une spécificité strictement italienne. Si on compare ça à la scène française, où jamais un architecte dans une école d'architectes aurait eu l'idée de faire du design, ce n'est pas le cas en Italie. Troisièmement, le réseau industriel italien, il se fabrique à partir de ce qu'on appelle les fabriqués, qui sont les micro-entreprises, les entreprises familiales autour de l'artisanat, qui vont traverser le XXe siècle en étant ceux qui fabriquent cet extraordinaire tissu industriel italien, parce qu'il est extrêmement réactif, il est extrêmement flexible. C'est juste la situation inverse de la situation française. Nous avons, nous, la capacité de faire des travaux d'ingénieurs, de faire des travaux publics, de faire des EADS, en partie en tout cas. Et nous n'avons pas ce réseau de petites entreprises.
Il racontait très bien comment il avait vivoté comme architecte à la sortie de la guerre. Il a été diplômé en 1939, il a été prisonnier pendant 4 ans.
Michel Champenois.
À Sarajevo, je crois. Il en a gardé un souvenir assez vif, enfin d'ennui et de tristesse. Et ça motivait sans doute une certaine revanche sur la vie qu'il a pu prendre sous diverses formes. Mais le fait d'être architecte pour un designer italien, ça veut dire aussi que, là encore, rien ne s'arrête. C'est-à-dire qu'entre la maison et l'ameublement, ou le mode de vie, ou les objets qui vous entourent, il n'y a pas de différence de nature. Il aurait aussi bien pu dire « tout est architecture, c'est une fatalité ».
Quelle est la maison que vous préférez?
La mienne.
Vous pouvez la décrire?
C'est très simple. Il y a un pavimento pavé de bois, partout le même. Et il y a des meubles qui Ettore a dessinés. Mais c'est très, très, très calme. Avec les murs ont des couleurs, vert, bleu, rose. Il y a une cuisine très belle, je trouve, j'aime beaucoup, avec des meubles dessinés aussi par Ettore, avec des léantes, je ne sais pas comment les appeler, en verre, comme on les faisait peut-être dans le Tirolo, d'où il vient, et un grand lit, et des beaux tableaux sur les murs, des dessins, une table bleue, une table blanche.
Moi, ce qui m'intéresse de ça, c'est l'architecture vernaculaire, c'est l'architecture des éoliennes ou des pouilles ou des maisons modestes, où les gens qui construisent les maisons sans vouloir faire des œuvres créatives, mais ils sont là pour répondre à l'attente de personnes qui ont besoin de petites pièces pour s'isoler, de petites pièces pour travailler, puis ils ont besoin d'une salle commune pour vivre ensemble. Mais toutes les maisons que Sotsas a commencé à faire à partir des années 87, et j'en ai visité beaucoup, elles sont dessinées dans un esprit radicalement différent de ce qui se fait aujourd'hui, car ce sont des maisons qui sont toujours conçues autour d'espaces privatifs qui se juxtaposent. Il n'y a pas cette notion de loft, il n'y a pas cette notion, par exemple, d'ouverture totale vers l'extérieur. On dit non, on a besoin de voir peu de l'extérieur. C'est pas vrai que quand on est face à la mer, on a besoin d'avoir un beau window, on a besoin d'avoir un espace fermé parce que la mer, ça fait très peur. Donc, à la campagne, on a besoin d'avoir une vue sur un arbre, mais on ne veut pas avoir toute la campagne ou toute la montagne en face. Donc, les clients qui ont commandé des maisons à Sotsas, il y en a eu quelques-uns, l'ont laissé s'exprimer comme ils l'entendaient, à partir de leurs besoins, et il leur a toujours fait des maisons qui sont des maisons qui n'ont rien d'acceptable, à telle enseigne que Ettore Sotsas, architecte, est très peu reconnu.
Le Bauhaus avait en tête l'idée d'une société petite bourgeoise, bien ordonnée, avec la table et les chaises autour de la table, la lampe et le buffet, les tapis, les tableaux, l'escalier et la chambre à coucher, et la fenêtre qui donne sur le jardin, et l'enfant qui joue dans le jardin, et l'arbre dans le jardin, et l'ombre sous l'arbre, et le bain à l'ombre, et les vieux retraités sous les bains, et la ménagère en tablier, et la confiture de framboises faite à la maison, et les sourires et le pique-nique du dimanche au bord de la rivière. Amen. Un peu comme la Suède, le même genre. Mais ils n'avaient pas prévu que tout le monde se soulèverait et finirait cocu, et que les filles enceintes sans amour finiraient à la clinique où tout le monde est si gentil. Amen.
À partir de 1958, s'ouvre une longue et fructueuse collaboration avec l'entreprise italienne Olivetti, qui fabrique du matériel de bureau et des machines à écrire depuis le début du siècle. Mais Sotsas refuse d'être embauché directement par l'entreprise et il négocie un mode de collaboration qui préserve sa liberté.
Ce qu'il a mis au point avec Olivetti, qui est fondateur pour le métier de designer, c'est que son accord est le suivant. Il garde son indépendance, il n'est pas salarié par Olivetti. Il recrute lui-même ses collaborateurs et l'ensemble est payé par Olivetti. Donc ce métier d'indépendant intérieur-extérieur dans l'entreprise, c'est dû à la formidable relation de confiance qu'il a avec les Olivetti, avec Roberto Olivetti. C'est dû aussi à la personnalité de Sotsas qui n'a jamais pu travailler à l'intérieur d'une entreprise. Donc cet accord-là a été un accord très, très souvent étudié et repris par d'autres designers. Les composants de l'ordinateur à l'époque font que nous avons des armoires dans des pièces réfrigérées qui correspondent aujourd'hui à des ordinateurs portables, ou à peu près. Donc Sotsas a affaire vraiment de l'architecture intérieure pour habiller ses meubles. Il a affaire aussi beaucoup de travail de graphisme pour organiser les écrans et les touches. Et il dessine les machines à écrire portables. Et il fait ça pendant 20 ans.
Alors, qu'est-ce
il
que
dessine
ça donne
aussi le mobilier. Mais ça donne des machines que je trouve, par rapport au marché existant, ce sont des machines assez rectilignes. Ce sont des machines austères. La Praxis, la Techné, ce sont des machines très vendue à l'époque. Et puis, c'est évidemment la machine calculée à divisouma. Vous ne diriez pas que c'est du Sotsas quand vous voyez ça.
Parce que c'est très gris, que c'est très carré.
C'est très gris. C'est très triste, lui, la seule chose qu'il rajoute, c'est les touches de rouge pour introduire un tout petit peu de couleur dans les différentes fonctions. Mais sinon, c'est quand même très gris, carré. Et c'est pour ça que je dis austère. Mais très architecturé. Il ne veut pas quelque chose de mou, il ne veut pas quelque chose de rond.
Et pourquoi ?
Ce ne sont pas des jeux, ce sont des machines de travail. Et pour des machines de bureau, Ettore veut des objets qui soient des objets dans lesquels on a confiance et dans lesquels avec lesquels on a une relation de oui, de sérieux. Je pense que c'est pour lui une marque, une façon de marquer le respect de l'utilisateur, du nom de l'entreprise. On ne fait pas des gadgets. Mais dans le même temps, on a une activité foisonnante dont Olivetti n'en rend absolument pas compte, évidemment. Mais il fait une exposition en 69 à Stockholm, très, très largement inspirée de la méditation indienne. Et ce sont des empilements d'hôtels, ce sont des propositions de lieux de méditation personnels qui sont à 1000 lieues. Le public qui a visité cette exposition 69 ne pouvait pas imaginer que le même dessinait des machines chez Olivetti. Et ça, c'est à mon avis très propre à Ettore. Son univers personnel est aussi fort et interpénètre son univers de production industrielle.
Toi qui m'es, sou leve, précise, guardo você na memória. Sinta-me, sou silenciosa, suave, lá dentro tem uma margarida. Leve-me, sou a Praxis 20, primeira portátil eletrônica.
Olivetti, sensibilidade em suas mãos.
Alors Marie-Laure Jousset, parmi les objets les plus connus d'Ettore Sottsass, il y a la Valentine. Peut-être que vous l'avez ici d'ailleurs en photo.
Non seulement j'ai la Valentine, mais j'ai aussi, parce qu'Ettore tenait beaucoup à ce que nous l'ayons, j'ai aussi tout ce qui a entouré ce qu'on appelait la publicité sur le lieu de vente et la communication autour de la Valentine. Il faut dire, pour être honnête, que cette Valentine n'a pas rencontré un grand succès et qu'elle a été achetée par les amis architecte d'Ettore, par ce nombre de personnes. Mais cette machine qui est sortie en 69, qui était donc la première chez Olivetti, machine à écrire portable, qui s'adressait à un grand public, Ettore, très influencé par le pop, très influencé par l'idée que un objet domestique devait avoir un traitement différent d'un objet professionnel, a fait cette machine rouge. Elle est rouge d'un rouge pétant, sa boîte est rouge, la machine est rouge, les touches sont noires. Et il a dessiné les posters, les affiches, et puis les dépliants et les modes et le fascicule d'utilisation de la machine. Les photos étaient des photos d'Ettore qu'il avait montées pour faire un espèce de kaléidoscope des différents utilisateurs possibles. Donc on voit des femmes très années 60 qui utilise cette machine, et il voulait donner un caractère ludique et surtout personnel et dédramatiser l'utilisation de cette machine.
Il ne rejette pas la société industrielle, il l'amadoue, il la rend aimable, tout en ne tombant pas dans le piège du purement commercial. Alors si on revient à cette petite Valentine, c'est une machine très très simple, sur laquelle je crois à un moment il était même question de ne pas avoir les majuscules et les minuscules, qui s'inclut dans une boîte tout aussi légère, qui une fois qu'elle est, elle est donc transportable facilement. Et ça s'aimait dire qu'il avait pensé en la dessinant à ce pauvre écrivain obligé d'écrire à la campagne le dimanche pendant que tout le reste de la famille se distrait, ou enfin les gens dont le métier est d'écrire, et que c'était par temps de pluie, et que donc il aurait du plaisir à retrouver une petite machine rouge qui lui fait une sorte de clin d'œil.
Est-ce que la Valentine, par exemple, c'est un peu l'iPod, c'est un peu l'iBook dessiné par Jonathan Ive aujourd'hui pour Macintosh?
Oui, c'est certainement la même démarche, une démarche en tout cas comparable à l'iBook, c'est-à-dire un objet qu'on aime.
Il est un des premiers à dénoncer
Marie-Laure Jousset
la fabrication uniformisante, anonyme, triste et décevante de la production industrielle de masse. Pas avec Olivetti, pour lequel il a eu un immense respect, lui et son entreprise. Et c'est au fond, dans le courant des années 70, qui remet en cause cette idée que la société industrielle apportera le bonheur.
Et comment il le dénonce,
ça ? Il le dénonce en ne voulant pas répondre aux attentes du marché.
Je crois que ce qu'il a très changé, sa façon de voir le monde, c'est le voyage qu'il a fait en Amérique quand il est allé en 1956 dans le studio de George Nelson. et puis d'être allé en Inde, l'Inde, si.
Alors racontez-nous justement cette expérience de la première fois où il va aux États-Unis dans l'atelier de Nelson. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y découvre?
Par exemple, vu pour la première fois une différence très forte entre ce qu'on appelle l'artisanat et le design industriel. Alors ça, c'est très important. Il a compris que c'était la direction. On ne pouvait pas résister à l'industrie. Il fallait peut-être adapter l'industrie aux intérêts du design. Il était intéressé au nouveau, à cette façon nouvelle de penser la vie.
Et alors après, Barbara Radice, il y a aussi un autre voyage, un autre séjour aux États-Unis où là, il rencontre un certain nombre d'acteurs de la culture beatnik.
Si, il les avait déjà rencontrés. Il est devenu ami avec eux. Ils ont fait même une revue qui s'appelait East 128. C'est toute la culture hippie, hein, la culture contre l'establishment, contre la guerre, le Vietnam, tout ça. Et puis surtout Ginsberg qui était le plus ami, peut-être qui a été plus près. Qu'il était très. Il pensait à la culture de la rue, ce qu'ils appelaient la cultura della strada. Vous savez, Howl, la poésie très connue de Ginsberg, c'était très important. Et surtout, cet intérêt contre les militaires, les banques, les institutions en général, était un caractère plutôt anarchique.
What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars.
Flower Power, ça a beaucoup inspiré Toré. Cette espèce d'évasion vers un ailleurs fabriqué artificiellement ou aboutissement d'une méditation selon qu'il ait été en Californie ou qu'il ait été en Inde, ça a été un fil conducteur de son mode de fonctionnement.
La culture indienne est très très spéciale. Il a une forte sensorialité qui a toujours intéressé Ettore beaucoup. Il y a un très fort intérêt pour la couleur. C'est une culture très, très sophistiquée, très ancienne. Et tout ça, seulement, il a senti. Il a vu l'architecture, les gens. L'Inde est fantastique.
Vous savez, je vais vous raconter une très belle histoire. Je suis allé un jour en Inde chez Française. Et il m'a logé dans une très jolie pièce, une chambre presque vide. Elle était immense, peinte en bleu turquoise, et il y avait un lit. À travers une fenêtre entrait cette lumière indienne blanche. Je pensais qu'il n'y avait rien de plus beau. Cependant, une semaine auparavant, une inondation avait laissé la marque de l'eau sur le mur. Alors je me suis dit, quel dommage que l'inondation ait sali le mur. Puis je pensais que ce souci du mur sali était typiquement occidental. Nous nettoyons parce que nous voulons que les choses soient toujours neuves. Nous voulons que le temps ne passe pas. Les Indiens, eux, au moins perdent du passage du temps et laissent la marque de l'eau. Le problème qui se pose pour moi est de trouver comment exprimer cela.
Je ne sais pas si vous connaissez une œuvre qui s'appelle Design Metaphors. Et je crois qu'il était à Paris, cette œuvre. C'est une œuvre faite photographique. C'est une œuvre conceptuelle. On pourrait l'appeler d'art conceptuel sur le design et l'architecture. Où, par exemple, il y avait une photo d'une chaise, n'importe quelle, qui était photographiée dans un désert avec un lenzuolo, comme on dit, un linge blanc derrière. Et la chaise était photographiée. Une fois dans l'ombre et une fois dans le soleil. Et sous la photo, il y avait l'écriture « Vous voulez vous asseoir dans le soleil ou vous voulez vous asseoir dans l'ombre ?» Et c'était toute une série de choses comme ça. Et ça s'appelait « Les droits de l'homme ». Alors, il pensait plutôt à ce que les hommes ont le droit d'avoir ou de faire. Il pensait que les hommes devraient pouvoir décider s'ils veulent s'asseoir au soleil ou non. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider pour eux.
Alors, c'est vrai que Métaphore
Michel Champenois
pourrait être un titre pour l'ensemble de l'œuvre de Sotsas. Ça, c'est un très très beau, c'est un très beau travail. Ce sont des photos en noir et blanc prises entre 1972 et 1978.
Il a pris beaucoup de photos. Hein.
Il a pris beaucoup de photos toute sa vie et c'est un excellent photographe. Donc après Memphis, après les années 68, il voulait un peu fuir sa propre existence, non pas fuir son succès, mais se retirer dans des déserts, des montagnes un peu désertiques, et où il créait des sortes de petites mises en scène, des situations particulières. Et qui sont toutes de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, par exemple, qui ont trait au pouvoir. Trois marches, un micro, c'est le pouvoir politique. Des trônes un peu ridicules ou un peu ironiques. Et puis beaucoup de choses qui ont trait à l'architecture, la chambre, la pièce. Il dit quelque part que toutes les pièces sont des allusions à la vie sexuelle et au fantasme de la vie érotique, qui occupe une grande place dans son existence, me semble-t-il. Et donc, avec quatre bambous et trois bouts de ficelle et un drap, il crée des espaces qui sont des sortes de remises en cause de tout l'art décoratif tel qu'il s'est beaucoup pratiqué dans les années 80 et d'un retour à l'essentiel.
La décennie 1970 est consacrée pour Sotsas à la réflexion théorique, des années de recherche qui seront pour beaucoup dans l'éclosion du mouvement Memphis au début des années 1980. Alors Martine Bedin, nous avons ici une photographie que vous reconnaissez peut-être.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette photographie ?
On a organisé un congrès sur l'Ac de Côme, un congrès Memphis. On en avait fait comme ça trois, et où en réalité on se réunissait tous dans un hôtel, on allait manger, on buvait beaucoup et on essayait de réfléchir dans une grande agitation à ce que l'on allait dessiner pour la prochaine collection de Memphis.
Et alors, qui sont les designers qui sont ici? Il y a une vingtaine de personnes sur cette photo, au milieu de la nature. Il y a vous, ici,
alors,
très jeune.
Il y a Ed Torrey, au milieu, avec un garofano, une fleur sur sa veste.
Il n'a pas l'air très heureux sur la photo.
Ed Torrey n'a jamais l'air heureux. Et à sa droite, il y a Aldo Cibic, qui n'a pas l'air heureux non plus, parce que Ettore avait dû l'engueuler. Ettore a toujours engueulé Aldo. C'était un grand, grand garçon italien de Vicence. Et il adorait les bagnoles, Alpine, Renault, les jolies filles. Et Ettore, sans doute, aurait bien voulu faire comme lui, mais il était trop sérieux.
Vous êtes parmi les plus jeunes à intégrer, si l'on peut dire, et même à cofonder le groupe Memphis. Comment est-ce que vous entrez en contact? Comment est-ce que vous arrivez finalement en Italie et vous rencontrez tous ces gens qui vont créer Memphis?
Je suis inscrite à l'école d'architecture de Bordeaux à 17 ans et mon unique objectif, c'est de quitter la ville le plus vite possible. Donc à 18 ans, le jour de mon anniversaire, je passe mon permis de conduire. Ma grand-mère m'offre une voiture. J'obtiens une bourse d'études pour aller étudier à Florence en Italie et je pars. Or, dans les années 75-76, l'Italie, ce sont les années de plomb. C'est la résistance des étudiants, des grèves. Il n'y a personne dans la ville. Et moi, très honnêtement, je panique complètement. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai 50 000 lire par mois de bourse d'études, ce qui voudrait dire 50 euros, enfin pratiquement, j'en sais rien. Et je demande à tout le monde, mais où est-ce que je peux étudier l'architecture? Et là, je rencontre très vite le noyau d'architectes radicaux, un super studio mené par Adolfo Natalini, et qui, avec Andrea Branzi ailleurs, les Morozzi aussi à Florence, Sotsas depuis Milan, Michel De Lucchi qui vient de terminer ses études à Florence. Tous ces gens-là sont extrêmement actifs dans ce qu'on appelle le design radical, l'architecture radicale. Et on pourrait dire que ce sont des groupes qui se débattent de manière extrêmement rebelle contre toute idée de production et de consommation de masse. Il y a à Vienne Hans Söllin, à Londres Archigram, Rem Koolhaas aussi, on peut en parler à New York. Tout le monde réfléchit sur comment utiliser l'architecture et le design pour changer le monde. Et tout le monde croit qu'on va le changer, ce monde-là. Donc c'est profondément idéologique et profondément conceptuel. En Italie et surtout à Florence, tout ce qui est dit est produit. Il y a des livres qui sont produits, il y a une revue géniale qui est diffusée, tout petit exemplaire. Et tous les étudiants menés par ces gens-là posent des questions, laissent des tracts dans les maisons et leur demandent aux gens de se décrire, de donner une photo d'eux-mêmes et de faire le dessin de leur maison et ensuite de dessiner ce qui leur manque dans la maison. Et ça donne des revues. Mais l'idée, c'était la créativité publique. Au fond, c'est pratiquement, on pourrait dire, une sorte d'application de la naissance de l'art contemporain sur l'architecture et le design. The ragman, he draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, they furnish me with tape. But neither them nor the rain man can help me to escape. Oh, mama, this could be the end. I'm stuck down in Mobile with the Memphis blues again.
Et donc une soirée de décembre, Martine Bedin, tous ces gens se retrouvent chez Ettore Sottsass et Memphis est créé. Comment ça se passe exactement ?
Le nom de Memphis, écrit Barbara, a été prononcé la première fois le soir du 11 décembre chez Sottsass. On entendait la musique, le disque de Bob Dylan, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Et puis c'était un tourne-disque qui tournait. Et donc là, il y avait Michel De Lucchi, Ettore Sottsass, Barbara Radic, Marco Zanini, Aldo Cibic, Matteo Thun et moi. Ce que l'on fait tous, c'est qu'on a une sorte d'agitation continue sur le dessin. On ne fait que dessiner. Et ce matin, je demandais à Michel, mais est-ce que tu te rappelles pourquoi on dessinait autant ? On avait des cahiers qui étaient remplis. Alors je lui dis, moi je dessinais parce que je te voyais dessiner. Et lui, il me répond, mais moi je dessinais parce que je voyais Ettore dessiner. Et donc tout le monde, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de bar, il y avait très peu de disco. Nous étions uniquement réunis dans un état constant de dessin. À ce moment-là... Autour de la toute petite table, on se montre des dessins les uns aux autres. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dessiné? Et là, Ettore dit, mais il faut qu'on réalise ces objets-là. Et on était excités. On était en train de dire, on va faire ça, mais celui-là, regarde ça, c'est trop rigolo. Qui va le faire? Mais moi, je vais les réaliser. Comment on va les faire? Ben, on va voir. Et puis, on va les produire. Et puis, on va de toutes les façons se débrouiller pour le faire. Et comment ça va s'appeler? Et puis, il y avait l'autre, depuis trois quarts d'heure, qui chantait Memphis Blues. Et on a appelé ça Memphis. Ah, the senator came here. He ever showed his gun. He handing out free tickets to the wedding of his son. And I nearly got busted. Wouldn't it be my luck to be caught without a ticket and be found beneath the truck? Oh, mama, this could be the end. I'm stuck inside a mobile with the Memphis blues again.
J'ai apporté deux livres, en fait. Il y a pas mal de livres, mais j'en ai apporté deux. L'un qui m'amuse beaucoup, parce que c'est le livre que Barbara Radic et sa compagne avaient écrit sur la période Memphis. Il faut savoir que Sottsass n'aimait pas qu'on lui reparle constamment de Memphis, parce que c'était une période limitée dans son existence et qui avait été extraordinairement valorisée, publiée, et qui était de l'ordre du ressassement et de la redite, donc ça lui déplaisait. Mais il y a dans ce livre, qui est plein d'objets de toutes les couleurs, de bureaux, de tables, d'étagères, dans des matériaux différents, etc., une photo amusante qui montre l'équipe, la bande, le groupe de Sottsass, réunis sur une sorte de podium, qui ressemble aussi à un ring de boxe ou à un grand lit carré bordé de barrières vertes et roses, avec quatre lampes aux quatre coins, un soubassement où des rayures larges, noires et blanches sont en alternance. Et on voit toute cette bande de joyeux lurons et il y a un côté Woodstock. En fait, on comprend que ça a été pas seulement du travail de bureau, mais une grande fête, et que si les objets sont joyeux, il y avait bien une raison au départ.
C'est un lit qui vous plaît à titre personnel ?
Personnellement, non, mais à plusieurs, comme ils le font eux, peut-être que c'est exactement ce qui convient.
Ce qui caractérise l'ensemble des collections, il y a quand même, je crois, plus de 500 pièces qui ont existé, c'est la grande liberté des formes et des expressions. Et on cherchait à tout prix à déposer des espèces de petits virus comme ça dans le monde domestique de la maison. Et ces virus ne pouvaient être forts que s'ils étaient visibles, donc très colorés. Et en empruntant comme forme, comme décor, ce qui était absolument pas digne dans une maison. Le stratifié plastique, c'était dans les cuisines. Alors tout d'un coup, sur ce stratifié plastique, on y met des décors, on fait des couleurs.
Et vous en faites des meubles pour le salon, des meubles pour la chambre.
On en fait des lits, des bibliothèques. Et même l'utilisation de matériaux précieux comme l'argent, le verre soufflé, va prendre cette connotation-là. C'est-à-dire que quand on prend par exemple ce vase bleu, on pourrait appeler ça une bonbonnière qu'a dessiné Ettore. C'est un vase qui est fait à Venise, qui est soufflé par des maestros de Venise. Et puis il est sur un pied central, comme le sont un peu tous les calices. Puis on ne sait pas pourquoi, il a une sorte de queue quelque part qui sort derrière. Et on peut imaginer plein de choses, que c'est pour le prendre mieux, c'est pour le prendre à deux mains, c'est pour si jamais il est sur un plan incliné, il aura une petite béquille pour le tenir.
Parce que ça ne sert absolument à rien, on est bien d'accord.
Ça ne sert à rien, mais en même temps ça sert. C'est-à-dire que ça ouvre l'imagination, comme je viens de le faire en le décrivant, en se posant la question, mais à quoi ça pourrait servir ? Or, ça c'est Memphis, c'est tout d'un coup dire, il n'y a pas qu'une seule réponse à la fonction. On ne peut pas donner à la forme uniquement l'idée de la fonction qu'elle porte.
Et maintenant, on parle d'anti-design à tout bout de champ. Il était même présent à l'exposition italienne de New York. Et si les ménagères n'en parlent pas encore, c'est tout juste. Mais les étudiants en architecture en parlent peut-être. J'en sais rien. J'en connais pas. Et les rédactrices des magazines me demandent les yeux écarquillés et l'anti-design. Bon, vous savez, l'anti-design, c'est de la fureur, au milieu de la nuit. Ou peut-être du désespoir, ou alors, tout simplement, un canular.
Barbara Radice.
Au commencement, je me rappelle, on pensait seulement de faire une exposition très forte, ce qui s'est passé, mais on ne pensait pas que, absolument, on ne pensait pas que ça aurait été si forte. Et on est resté même étonné pour ce succès imprévu pour tous les magazines et journaux qu'on a écrit, 400 articles dans 6 mois, c'était incroyable.
Mais à l'époque, l'ambition de Ettore, c'était pas du tout de faire une collection de meubles à montrer dans une galerie à toute une série de collectionneurs très riches qui l'auraient acheté et pour qui ça n'aurait rien changé. L'idée d'Ettore, c'était que les meubles Memphis deviendraient une production industrielle, qu'elle allait changer la vie de tous les gens qui posséderaient ces meubles, qu'on pourrait les produire en grande série, qu'on pourrait les envoyer sur le marché. Donc l'industrie est, à ce moment-là, le moyen utopique de la diffusion des idées d'avant-garde.
Et puis après 3 années, 4 années, il a été stufo. Il était, comment dire, il s'ennuyait. Il pensait que c'était, il y avait trop de travail et trop de succès et trop de faux intérêts et que ça devenait comme quelque chose qui n'intéressait pas. Il voulait pas être identifié avec Memphis. Et alors il a commencé à penser que c'était le temps qu'il s'en allait, et il s'en est allé. S'en est allé du groupe Memphis, et puis Memphis a changé, mais quand même il s'en est allé. Il a dit, je veux voir, je veux appliquer part de ses recherches dans le champ de l'architecture, et voilà. Et il a commencé là à faire des architectures.
Ça s'est passé dans une dernière réunion sur le lac où Ettore Sottsass a dit maintenant basta. Et là, ça a été très violent. C'était comme une séparation. C'est comme une histoire d'amour qui s'arrêtait. Et Michel De Lucchi, qui est une personne très calme, avec une voix très douce, s'est fâché pour la première fois de sa vie, peut-être publiquement. Et il s'est mis à hurler. Mais pourquoi tu veux que ça s'arrête? C'est pas possible. On ne peut pas arrêter Memphis. Et Ettore lui a répondu, mais c'est comme l'histoire d'un couple, au bout d'un moment, on se fatigue. Et là, Michel a répondu, mais tu dis ça parce que ça fait 20 ans que tu es avec la même femme. Enfin, tout ça, c'est devenu incroyablement personnel. Et on en a un souvenir, mais ciselé dans notre mémoire. La fin de Memphis, pour nous les plus jeunes, c'était la fin de notre vie. On nous lâchait dans la nature. Et qu'est-ce qu'on allait faire? Comment est-ce qu'on allait pouvoir réfléchir tout seul? Quand il fait des choses comme ça, ça m'intéresse.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est toutes les céramiques de la collection du Centre Pompidou. Ah, il m'a donné ça, par exemple. Oui, les assiettes.
Alors comment elles sont, ces assiettes?
Mais elles sont toutes bêtes, ce sont des assiettes en céramique. Mais simplement, ils dessinent dessus la fin du monde, la lune, le partage entre la terre et le ciel, les signes qui pour lui sont les divisions du temps. Il y a toutes sortes, ce sont des objets de méditation.
Marie-Laure Jousset, est-ce qu'Ettore Sottsass vénérait les objets?
Mais est-ce que je peux donner un témoignage personnel? J'aime autant. Je pense tellement pas qu'il vénérait les objets que chez lui, c'était incroyablement dépouillé. C'est-à-dire que dans ses deux maisons, dans ses deux appartements assez modestes, et dans sa maison de Filicoudi, dans les Éoliennes, il y avait toujours une grande table sur laquelle tout était rangé dans un ordre immuable et parfait. Et il y avait des bibliothèques, des énormes bibliothèques qu'il avait dessinées, dans lesquelles il y avait ses livres. Et sinon, il y avait de la musique, et sinon, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun objet chez Ettore, sinon un petit Bouddha, une fleur chinoise, des choses très modestes, et il n'avait aucune espèce d'envie de s'encombrer par la moindre chose. Il avait une céramique qu'il avait faite avec nous à Sèvres en 94, qu'il aimait beaucoup. Il avait vraiment pratiquement rien. Et encore une fois, je pense que c'est intelligent de sa part.
En 93, puis en 2005, la manufacture de Sèvres demande à Sottsass de créer pour elle une série de 20 objets originaux. David Caméo, directeur de la manufacture.
Les pièces de Sottsass que vous fabriquez ici voyagent dans le monde entier?
Ah, les pièces sont demandées dans le monde entier. J'avais hier un gros client de Corée qui venait aussi pour commander Sottsass. Et dans tous les pays, c'est une demande très importante. Il y a une forte demande. Aujourd'hui, une partie de la collection des pièces de Sottsass, comme avec 200 pièces de la manufacture, sont à Séoul. Donc au total, 20 pièces. C'est effectivement sur les 30 ou les 20 dernières années la personnalité qui se dégage de la production de la manufacture. Il y a 3 pièces qui sont en série limitée de 10 exemplaires. Toutes ces pièces sont vendues et les autres sont en série illimitée. Voilà. Mais quand on parle de série illimitée à Sèvres, il faut savoir que pour chaque modèle, nous ne prenons que pour une année 3 commandes pour chaque modèle. Ici, rien n'est mécanisé. Tout est fait à la main comme au XVIIIe siècle, que ce soit des pièces contemporaines ou des pièces anciennes, des rééditions, elles ont toute l'obligation de respecter ce processus traditionnel de fabrication.
Alors comment, jusqu'à la mort d'Ettore Sottsass en décembre dernier, s'est passée la collaboration ?
Alors, il est d'abord venu à plusieurs reprises au tout début des années 90, donc 92-93, et il le dit lui-même, je suis rentré ici avec bien sûr une force de création dans ma tête et je me suis senti très humble. Et j'ai pensé moi-même, dit-il, ne pas être capable de m'affronter, en tous les cas d'avoir une confrontation entre ce savoir-faire exceptionnel des techniciens d'art, tel est le terme, des agents de la manufacture, des céramistes, et ma propre part de création. Et donc, en fait, ce dialogue s'est noué entre eux. Il a été séduit dans le fait qu'il y a une grande écoute ici, une grande compréhension, un grand respect entre celui qui conçoit, celui qui crée, bien sûr, et celui qui a la charge, bien évidemment, de fabriquer l'objet. Et Sottsass, pour un des vases, le vase Sibylla, a souhaité obtenir un rouge orangé qui n'existait pas malgré la gamme de 1000 couleurs de la manufacture et malgré cette utilisation de ces rouges orangés qui étaient assez en vogue au 18e et au 19e, qui n'existait pas. Donc il a fallu adapter au point, essayer de voir comment s'approcher de sa demande. Cette recherche a abouti favorablement, au bout quand même d'un peu plus d'un an, bien sûr, comme tout le processus, je vous l'ai dit, est très long à la manufacture, et on a obtenu ce rouge orangé qui est baptisé maintenant rouge orangé Sottsass. L'atelier où vont être assemblées toutes les pièces, hein, que ce soit des pièces effectivement anciennes comme celle-ci, des pièces du 18e et les pièces de Sottsass.
C'est des dessins de Sottsass qui sont ici ou...
Non, moi, c'est mon carré de croquis, ça. C'est mon carré de croquis, et dedans, il y a peut-être du Sottsass. C'est une des certaines dénominations de ces pièces, la première série, Joséphine, Diane, Salomé, Lolita. Et je vais vous dire que moi, spécialement, j'en ai deux préférées. Une sur lequel on a énormément de travail, c'est dans la première série, c'est Laure et Lucrèce. Parce que techniquement, pour nous, il y a un vrai travail de recherche sur le montage du socle, qui est une pierre, un marbre, enfin une pierre d'Aigueville au départ. Et il y a tout un système de montage qui s'adapte à l'ergonomie des formes. Alors toutes ces séries de pièces esthétiquement sont comment dire, belles à voir, à toucher. Mais en plus, celle-là, techniquement pour nous, est synonyme d'un véritable... pas dire exploit, mais d'une véritable recherche pour arriver au terme qui était l'assemblage final. Quoi.
Vous pouvez la décrire, cette pièce ?
Donc elle se compose de deux éléments, chacune, hein, Laure et Lucrèce, sont en fait, pour imaginer un petit peu la description, il y a une tulipe blanche en haut, qui est pleine or intérieur, qui est assez fine, et en dessous, vous avez une forme de grande vase qui est assez voluptueuse dans ses formes, assez chaleureuse, qui est bleue, et qui est recouverte d'un disque plein noir. Et cet ensemble est monté sur un socle en marbre. Et les éléments donc métal viennent assembler ces deux pièces porcelaine et coulissent donc dans ce socle qui lui-même est fermé par une grande plaque que l'on traite, que l'on nickel et qui lui appose les marques de Ettore Sottsass et de Sèvres.
Tout cela pour dire que finalement les mensonges de jeunes gens qui courent ralentis sur des plages de sable blond, chevés au vent et dents blanches grâce à tel dentifrice infaillible, eh bien ces mensonges, dans la réalité, ne résistent pas à l'espace d'une seconde, pas plus qu'ils ne résistent les mensonges de la villa au bord du lac, ou celui de l'appartement sous le toit du vieil immeuble de Milan, avec terrasse carrelée, tonnelle de fausses vignes, citronniers, cuisine improvisée, siège de chiavari, tapis péruvien, petite porte laquée en rouge, téléviseur portable rouge, fourchette danoise et chambre d'enfant où le ballon attend sagement dans un coin. C'est là pour dénoncer aussi les sinistres alibis de la marchandise bon marché à l'intention des masses. Ces masses que l'on contraint ainsi à acheter, comme si c'était une charité qu'on leur faisait, un cadeau, au lieu de leur faire la charité, d'accepter un cadeau des villes, des écoles, des hôpitaux, des médicaments et des retraites, de meubles luxueux, des châteaux, des parcs, des monuments et des musées, des avortements, des mariages, des divorces et un monument et une tombe gratis. Oui, tout cela gratis, aux frais de ceux qui parlent les yeux mouillés de larmes et les aisselles mouillées de sueur, des problèmes de l'homme.
J'ai aimé chez lui parce que je l'ai connu, il avait 60 ans. J'ai aimé chez lui son vieillissement. J'ai aimé la façon dont cet homme s'est peu à peu retiré de la scène. Et j'ai aimé la façon dont il a conduit sa grande vieillesse jusqu'à sa mort.
Pourtant, il était très pessimiste à la fin, sur le monde.
Il y a de quoi être pessimiste. Quand vous avez 80 ans et que vous ne comprenez plus rien au monde contemporain, il disait avec beaucoup d'honnêteté, je n'ai pas les outils pour comprendre la période contemporaine. Et un homme qui est né en 1917, qui a été engagé socialement, sinon politiquement, car il n'a jamais appartenu à aucun mouvement, quand vous avez connu les utopies fondatrices du XXe siècle, quand vous avez été... c'est bien normal que le désenchantement de la période contemporaine et son extrême complexité... le rendre pessimiste. Je crois qu'on est d'autant pessimiste qu'on a moins les outils pour lutter.
Vous me demandiez de le décrire. Je dirais que son visage est très impressionnant. Bon, nous avons, lors d'une des interviews, fait une séance de photos et la photo que nous avons publiée dans Le Monde à l'époque, c'était je crois en 1993, c'est une photo de Gérard Rondeau qui a été choisie par la rédaction avec les yeux baissés. Alors, il a les yeux clos sur cette photo. Il avait des yeux très très présents, très, très puissants, enfin, un regard assez, assez fort. Et d'une certaine façon, il l'a encore avec les yeux clos.
C'était Une vie, une œuvre, Ettore Sottsass, 1917-2007, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Ghislaine David, avec Martine Bedin, Marie-Laure Jousset, David Caméo, Michel Champenois et Barbara Radice. Les textes étaient lus par Roberto Armini, prise de son Laurent Lucas et Ludivine Caron, mixage Jean-Richard Dufour et un remerciement à Bénédicte Duhalde du magazine Intramuros.
Il disait toujours que les héros sont ridicules. Et que les optimistes sont des gens à éviter. Maintenant, quand on était tous réunis et que l'on travaillait chez lui dans 20 mètres carrés, on riait beaucoup aussi, il ne faut pas croire qu'on était grave, au contraire.
Samedi prochain, dans Vos Une Vie, Une œuvre de l'été, nous reviendrons sur un autre designer, un Français mais au profil anglo-saxon et qui a vécu aux États-Unis, Raymond Lewy. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.